Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un fait divers étonnant, tant par son scénario que par ses personnages. Le 29 octobre 2015, Joseph Cipilitti, avocat à Melun, expérimenté, longue carrière derrière lui, se rend au tribunal et tire 3 balles sur le bâtonnier du barreau, Enrique Vanier, touché à l'épaule, à la hanche et au thorax. Alors que son confrère se vide de son sang dans son bureau, Joseph Cipilitti se suicide. Cette tentative de meurtre d'une robe noire contre une autre est déjà atypique en soi. Elle déclenche donc une vraie curiosité, à commencer par celle de la presse, mais au bout de quelques semaines, l'attention médiatique s'essouffle. Le coupable est mort, il n'y a pas de suspense, pas de procès, plus grand chose à dire donc. Et puis, de nouveaux drames viennent capter l'attention des journalistes. Enfin, presque tous. Car parmi eux, il y en a une qui ne lâche pas l'affaire, c'est le cas de le dire. Elle va passer 5 ans à tenter de comprendre les rouages de ce crime, les personnages du drame, l'origine de la violence, somme toute. Et l'enquête, qui est devenue un livre, de ceux qui montrent comment parfois ce n'est pas le journaliste qui choisit son sujet, mais bien le sujet qui happe le journaliste. Notre invitée aujourd'hui, cette journaliste, justement, est désormais écrivaine, Ondine Milot, dont le livre intitulé « Le candidat idéal » est paru en septembre dernier aux éditions Stock. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Juliette Proutot, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Le.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Jeudi 29 octobre 2015, presque 9h30, tribunal de Melun, Seine-et-Marne. Tout est calme ce matin-là dans les grands couloirs du palais de justice. Quand le premier cri surgit, on lui a tiré dessus, on a tiré sur le bâtonnier. La déflagration met quelques minutes à atteindre l'intérieur des salles d'audience. Alors le temps se suspend, les débats s'interrompent. Au moment où les policiers se précipitent vers les étages du bureau, une petite foule s'agglutine dans la grande entrée du palais de justice. Et au fil des minutes, avocats, juges, greffiers, huissiers, tous les rouages de l'institution judiciaire se groupent en un seul bloc. Comme pour permettre d'abord la compréhension collective d'une réalité que la conscience individuelle n'appréhende pas encore. Car les tribunaux sont des lieux sacrés quand on a foi en la justice, des sanctuaires. Ici, on juge des crimes, on ne commet pas. Alors, quand les premières rumeurs de l'agression parviennent jusqu'à la foule, la stupeur monte d'un cran et on murmure « C'est Joseph qui a tiré. Oui, paraît que c'est Vanier qui est mort. Non, mais si. » Au bout de quelques heures, les informations se précisent et l'effarement s'installe. Oui, il semblerait bien que Joseph Cipilitti ait tiré 3 balles à bout portant sur le bâtonnier Enrique Vanier dans le bureau de celui-ci et qu'il se soit ensuite donné la mort. Non seulement le crime a eu lieu dans l'enceinte même du tribunal, mais il a été commis par l'un de ses avocats à l'encontre d'un autre avocat du jamais vu. Pas étonnant que la machine médiatique s'emballe, comme le 13h de France 3, rapidement sur place.
La scène a lieu un peu après 9h dans l'aile sud du palais de justice de Melun.
Ceux qui n'ont rien à faire en tribunal, ils sortent.
Quelques minutes plus tôt, 3 coups de feu ont été entendus. Les secours sont rapidement sur place.
C'est le bâtonnier qui a été touché. Le bâtonnier, la personne est morte, celle qui a tiré.
Elle s'est suicidée. La victime, c'est lui, Enrique Vanier, bâtonnier de Melun, grièvement touché. Il est entre la vie et la mort. Le tireur, lui, est effectivement décédé après avoir retourné l'arme contre lui. Il s'agit d'un avocat, maître Joseph Cipilitti, spécialiste en droit des personnes, réputé proche de l'extrême droite. Le bâtonnier a été transféré d'urgence à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
Comme plusieurs chroniqueuses et chroniqueurs judiciaires, Ondine Milot est présente dans le tribunal en ce 29 octobre au matin. Elle fait partie des premiers journalistes qui relateront l'événement. Mais contrairement à ses confrères, cette affaire va la plonger dans une très longue enquête. En octobre 2015, Ondine Milot est journaliste pour le quotidien Libération. Chroniqueuse judiciaire expérimentée, c'est pour ce journal qu'elle se rend à Melun. Elle doit suivre un procès d'assises, celui d'un couple accusé d'avoir tué son bébé de 20 mois. Le corps de la petite Inaya avait été retrouvé 2 ans auparavant, enterré dans des sacs poubelles dans la forêt Fontainebleau. Un journaliste de France 3 résume l'affaire avant le début du procès.
C'était le 23 janvier 2013. Le corps de la petite Inaya est retrouvé enterré dans ce bois situé à Avon, sur l'indication de ses parents domiciliés non loin de là. Le décès de l'enfant remonterait à un an. Le père et la mère ont deux autres enfants et la famille était visiblement suivie par les services sociaux. Ce sera d'ailleurs un signalement de maltraitance concernant le frère aîné qui aurait déclenché une enquête en 2012 sur la disparition d'Inaya. Interrogé, le père, déjà condamné pour violence sur mineur, indiquait qu'elle était chez ses grands-parents. La mère donnait d'autres explications avant de révéler que sa fille était morte et qu'il s'agissait d'une chute accidentelle. Le procès qui va s'ouvrir demain ne manquera pas de soulever de nombreuses questions, notamment sur les conditions du suivi de la famille d'Inaya. Les parents sont poursuivis pour violences habituelles ayant entraîné la mort.
Si Ondine Milo s'intéresse à cette affaire, ce n'est pas pour ses composantes sordides, pour avoir en face deux parents monstrueux, non. C'est parce que ce dossier met en lumière de graves dysfonctionnements au sein des services de l'aide sociale à l'enfance. La journaliste en a bien conscience, elle qui en a vu tant. Elle sait que les monstres, ça n'existe pas. Rechercher l'humanité chez les coupables, les meurtriers, comprendre ce qui les conduit à commettre l'irréparable, voilà ce qui intéresse la journaliste. Comme une avocate d'ailleurs, car là est bien la philosophie de la défense, dans un état de droit. Puis, Ondine Milo sort d'un autre grand procès, celui de Dominique Cotteret, condamné en juillet 2015 pour 8 infanticides, un dossier qui lui trotte toujours dans la tête, qui la travaille même. Et c'est le cortège de questions graves. Pourquoi cette femme a-t-elle assassiné ses nouveaux-nés? Pourquoi les a-t-elle gardés auprès d'elle toutes ces années? Ondine Milo a l'habitude des faits divers, des crimes glauques, violents, mais elle ne parvient pas à se détacher complètement de cette femme. Le visage de Dominique Cotteret, sa personnalité, son histoire, quelque chose touche, perturbe la journaliste. Peut-être l'impression que toute la lumière n'a pas été faite sur cette femme pendant le procès. Alors, elle commence à se dire qu'il faudrait essayer d'en savoir plus, creuser encore un peu de ce côté de l'humanité. Pense-t-elle à cela, notre consoeur, au moment où Joseph Cipilliti se tire une balle dans la tête, dans un bureau, à quelques dizaines de mètres à peine? Peut-être. Toujours est-il que ses réflexions sont brusquement interrompues lorsqu'elle est entraînée parmi la foule compacte qui se forme à l'annonce du drame qui vient de se nouer. La session d'assises est reportée, et au soir du 29 octobre 2015, voilà ce qu'on sait de la tuerie du tribunal de Melun.
Dans les couloirs du palais de justice de Melun, la panique. Il est 9h30 ce matin. Quand les secours arrivent sur place, l'avocat Joseph Cipilliti, ici à gauche, vient de tirer à 3 reprises sur le bâtonnier Henri Vanier avant de se donner la mort. Les deux hommes avaient rendez-vous. L'avocat devait être suspendu pour des manquements déontologiques. Il avait notamment envoyé des lettres de menace au bâtonnier. C'est avec une arme qu'il est entré ce matin au tribunal. Contrairement au public, les avocats ne sont pas fouillés.
Contrairement à ce qui a été annoncé par certains journalistes, le bâtonnier Henrik Vanier a survécu. Une information judiciaire est aussitôt ouverte et les investigations confiées au SRPJ de Versailles. Les enquêteurs obtiennent rapidement différents éléments quant aux circonstances du drame. Ils apprennent d'abord que les deux avocats avaient rendez-vous ce matin-là pour régler un conflit latent entre Cipilliti et l'ordre des avocats. Conflit qui s'était transformé en une sorte de croisade de l'avocat contre le bâtonnier. Cela fait quelques années maintenant que Joseph Cipilliti traverse des difficultés professionnelles. Depuis 2014, il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, notamment pour injures, menaces écrites et verbales à l'encontre du bâtonnier. Au moment où il s'apprête à commettre son crime, son cabinet est en liquidation judiciaire. Il sait que cette sanction signe la fin de sa vie professionnelle. Sans compter qu'il ne paye plus, et depuis un moment, ni ses cotisations professionnelles, de retraite, ses charges à l'URSSAF ou le loyer de ses bureaux. Non, il se dit harcelé par l'ordre des avocats et le fisc. Il n'a quasiment plus aucun client, c'est un homme à la dérive. L'association identitaire Résistance Républicaine est l'un des seuls clients qui lui reste. Cipilliti avait défendu l'une de ses fondatrices, Christine Tassin, accusée de provocation à la haine raciale, après avoir déclaré « Oui, je suis islamophobe et j'en suis fier ». Il donne à l'occasion de ce procès l'une de ses seules interviews.
La jurisprudence est parfaitement claire. On a le droit de critiquer un système de pensée. On a le droit même de ressentir de la haine pour un système de pensée. C'est le sens notamment de la décision du tribunal correctionnel dans le jugement de M. Houellebecq. Et par conséquent, je m'inscris dans cette lignée. Il n'y a pas de raison d'interdire à quelqu'un de critiquer un système de pensée, quel qu'il soit, islam ou autre chose.
La déchéance professionnelle de l'avocat, qui s'accompagne d'une radicalisation politique en faveur de l'extrême droite, éloigne progressivement Cipolletti de la vie du barreau, de la vie tout court d'ailleurs, et forcément de la réalité. Selon les enquêteurs, il semble alors qu'il ait fait d'Enrique Vanier le bouc émissaire de ses malheurs. Rappelons qu'il est bâtonnier, ceci explique peut-être cela. En tout cas, Vanier, cet homme âgé de 43 ans au moment des faits, est un homme chaleureux, dynamique, populaire, tout l'opposé de Cipolletti. Pour la police, et selon toute logique, c'est l'engrenage irrationnel, désespéré et haineux du vieil avocat qui serait donc à l'origine de la tentative d'assassinat du bâtonnier. Mais Cipolletti s'étant condamné à mort tout seul, suicide, il n'y a pas de procès, l'affaire est close, sauf pour Ondine Bilot. Car il y a quelque chose qui cloche dans toute cette affaire, se dit-elle. Certes, sur le papier, tous les éléments d'une tragédie classique sont réunis. Un personnage de grand méchant, solitaire, désespéré, en colère. Une victime innocente, appréciée. Le tout dans un décor on ne peut plus théâtral, un tribunal. Ce que la journaliste a du mal à comprendre, c'est comment le sentiment d'injustice, de harcèlement vécu par ce coupable, a pu l'amener à un geste aussi extrême à l'encontre de sa victime et contre lui-même, comme elle l'explique sur France Inter, au micro de Karine Bécard.
Pourquoi, en fait, l'un des deux avocats décide-t-il de s'en prendre à l'autre? C'est tout le cœur de votre livre, c'est évidemment ce qu'on veut comprendre, c'est ce que vous cherchez, vous, à savoir. La relation, comme vous commencez à le dire, elle est tendue entre ces deux messieurs depuis quelques années déjà, c'est ce qu'on apprend très vite, mais est-ce que vous vous dites tout de suite que ça valait un assassinat?
Finalement, le bâtonnier, il survit. Mais effectivement, je me dis non, il n'y a pas forcément matière à un assassinat. En tout cas, c'est étrange qu'il y ait eu comme ça une forme de fixation d'un homme sur un autre parce que je me rends compte qu'ils se sont vus deux fois. Et que cette relation tendue dont vous parlez, c'est des lettres, mais sporadiques, quand même pas très nombreuses.
Vouloir tuer quelqu'un et se suicider à ses côtés, choisir de lier sa mort à celle d'un autre, n'est-ce pas au contraire l'expression d'une relation particulièrement intime, personnelle? Convaincue qu'il y a une histoire derrière l'affaire, la journaliste décide de se plonger dans la vie des deux hommes. Elle rencontre d'abord Enrique Vanier à Paris quelques semaines après le drame. Le bâtonnier va mieux, tout du moins c'est ce qu'il prétend. Et il a envie de raconter son histoire, revenir sur ce qui s'est passé le 29 octobre 2015. Et au fil des nombreuses rencontres avec Ondine Bilot, Vanier s'ouvre, se raconte. Il parle de son enfance dans une famille modeste, de l'absence de son père incarcéré quand il a 7 ans. Il résume cette partie de sa vie lors d'une interview donnée à nos confrères du Parisien pour leur podcast sur cette affaire.
Un père bosseur qui a fait 36 métiers pour pouvoir nourrir sa famille. On a toujours compté pour aller au bout du mois et on a su ce que c'était que des difficultés financières, des huissiers de justice qui tapent à la porte, des loyers qui ne sont pas payés, des expulsions, la justice qui intervient. Donc tout ça, je connais. Ma mère, elle me laisse pas le choix, ou en tout cas les événements me laissent pas le choix que d'être pas l'homme de la famille, mais quand même celui qui va aider sa maman lorsqu'elle n'est pas là ou lorsqu'elle est là dans les tâches ménagères, et puis qui va aussi essayer de rassurer les deux frères qui sont plus jeunes. Hein, donc je prends ce rôle naturellement en me disant que moi aussi mon père me manque, mais il va revenir. Bon, je l'attends.
Enrique est adolescent lorsque la famille s'installe de nouveau en France après le Luxembourg et l'Italie. L'aîné de la famille veut faire des études de droit. Il a décidé d'être avocat. C'est après sa première visite au parloir, quand son père était en prison, que lui vient l'idée. Par revanche sociale? Peut-être. Parce qu'il croit en une justice au service des plus faibles? Sûrement. Il prête serment en 1998 et finit par monter son propre cabinet. Les affaires arrivent, puis affluent. Marié, couple harmonieux, père de deux enfants, on peut dire d'Enrique Vanier que c'est un homme qui a réussi, peu importe le sens que l'on met derrière l'expression « les faits parlent », car il est élu bâtonnier en 2008 pour 2 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il entend parler de Joseph Cipolletti pour la première fois. Les deux avocats ne se connaissent pas personnellement. Ils se sont parfois croisés dans les couloirs du palais. Bonjour, bonsoir, rien de plus. À cette époque, Cipolletti vient d'être placé en liquidation judiciaire parce qu'il ne paye déjà plus ses cotisations à l'ordre. Alors, le conseil disciplinaire vote à la majorité en faveur d'une interdiction temporaire d'exercer. Mais selon le bâtonnier, au regard de l'âge de l'avocat, d'une impossible reconversion, une telle décision aurait conduit à sa mort sociale, voire à sa mort tout court. Vanier décide donc d'aller à l'encontre de la délibération du conseil et de donner une deuxième chance à Cipolletti. D'ailleurs, il n'entend plus parler de lui. Jusqu'en 2014, année où il est réélu bâtonnier. Il découvre à ce moment-là que la situation financière de son confrère s'est encore dégradée. Et il décide de le convoquer pour lui proposer à nouveau une solution à l'amiable, autrement dit, un étalement de ses dettes. Bien, leur rendez-vous se passe correctement, même mieux que ça. Évidemment, le bâtonnier a tout de même été très compréhensif. Et il offre à Cipolletti l'occasion de se remettre à flot financièrement une bonne fois pour toutes. Il laisse en tout cas une bonne impression au bâtonnier, qui le confirme ici.
À un moment donné, sur la fin d'entretien, on en vient à se dire, parce que moi je porte un nom très français, hein, c'est Vanier, que j'ai des origines italiennes, notamment pour moitié de mon sang, et que j'ai vécu 5 ans en Italie, que je parle italien, et que lui, avec son nom, je sais qu'il est italien, et il est ému, parce que j'échange quelques mots en italien, il a la larme à l'œil, je le vois bien, donc la poignée de main à la fin de cet entretien, elle est sincère entre deux personnes qui se sont vues pour... pas pour se dire des mauvaises choses, pour aller dans le bon sens. Donc à partir de là, je suis plutôt rassurant en me disant, bon voilà, parmi toutes mes missions, il y en a une, c'est celle-ci, c'est accompagner quelqu'un qui, encore une fois, ne va pas bien. Mais ça fait partie du rôle du bâtonnier. Et finalement, dès le lendemain, je reçois un écrit qui me laisse à penser que j'ai affaire à quelqu'un qui a complètement changé, ou en tout cas qui écrit le contraire de ce qu'il laisse paraître au cours d'un entretien. Et là, je me dis, je comprends pas.
Quand elle entend Enrique Vanier lui raconter tout ça, Ondine Milo s'interroge. Mais que s'est-il donc passé dans la tête de Cipolletti? Qui est cet homme étrange que ses confrères regardaient toujours un peu de haut, en train de traîner son habituelle petite valise à roulettes dans la salle des pas perdus au tribunal? Qui est, finalement, l'autre victime du drame du 29 octobre? La seconde partie de l'enquête d'Ondine Milo commence.
It's understood. You don't want to be a part of this. Although you could, but you have grown apart from this. And I, for one, am sick of running in these circles, dear. And I, for one, would love the sound. It's crystal clear, although I'm here, I'm not a part of this. It's overdue, so let's both put an end to this. You know it's true, why don't you put an end to this? That it will have to end like this. I'm blaming you, but I'm as much
to blame in this. It seems my heart, right from the start, was always split in two. It is so far from what you are and what I've made of you. It's crystal clear. I was.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Comme son nom l'indique, Joseph Cipilliti, qu'on devrait prononcer d'ailleurs Cipilliti, S.C., est d'origine italienne, né en Sicile en 1951. Sa famille déménage en France, d'abord à Aix-les-Bains, puis à Grenoble en 58 dans un quartier populaire. Jusqu'à ses 26 ans, il vit dans les trois pièces de ses parents avec ses trois frères et sa sœur. Des frères qui quittent l'école à 14 ans pour rejoindre leur père sur les chantiers. Alors Joseph, avec ses études de droit, c'est l'intello de la famille. Et ils en sont tous fiers. Joseph aussi. Mais ce n'est sûrement pas tant l'orgueil qui l'anime que le besoin de justice, un peu comme Henri Vanier en quelque sorte. Mais contrairement au futur bâtonnier, Cipilliti a toujours été un homme plutôt solitaire, discret. Célibataire, sans enfant, c'est un homme têtu, obstiné, un peu rigide. Il ne sait pas faire de compromis, arrondir les angles. Il y a quelque chose chez lui de manichéen, dès le début. Les gentils et les méchants, les puissants et les petits. Il parle peu, ne se raconte pas. Sa belle-sœur dira de lui, quand on lui posait des questions, il sourit en disant « Moi, tout va bien ». Moi, tout va bien. Mais évidemment, c'est faux. Car il a de plus en plus le sentiment d'être victime d'injustice de la part du barreau, du fisc, de l'État. Le moindre détail peut l'amener à des réactions que d'aucuns jugeraient disproportionnées. Il peut accéder à son vestiaire au tribunal, il ne peut pas accéder pour une histoire d'horaire et d'absence de personnel habilité à lui ouvrir. C'est lui qu'on insulte, alors il hurle au scandale. Paranoïaque, il se radicalise, se replie derrière un statut de victime. Il s'imagine méprisé, harcelé. Il est en quelque sorte toujours le David de Goliath, étouffé par ce carcan victimaire qu'il habite, peut-être d'ailleurs depuis son enfance. Et il ne parvient pas à s'en libérer. Contrairement à Henrique Vanier, qui en a fait une force, Joseph Cipilliti se fait avaler par ce qu'il considère comme un déterminisme social. Et sa colère se politise, il se rapproche de l'extrême droite. Dans le choix de ses clients d'abord, dans ses orientations personnelles ensuite, il est de plus en plus seul. C'est le 28 octobre 2015, à la veille de l'attaque du bâtonnier et de son suicide, que la spirale dépressive, irrationnelle et désespérée du vieil avocat l'envahit. Cipilliti envoie à tous ses contacts un document intitulé « Journal indélicat » dans lequel il déverse, sur 240 pages, son aigreur et sa rancune contre tout et n'importe quoi, n'importe qui, les institutions, le système. Henrique Vanier et sa némésis, en voici un extrait.
À partir de 2014, il devint clair que ce moment approchait. Je dérangeais trop d'intérêt depuis trop longtemps et l'heure était venue pour le système de sonner l'alali. En janvier, le nouveau bâtonnier élu, HV, me fit comprendre qu'il ferait tout pour cela. Je m'en doutais déjà, pour avoir pu le connaître au cours de son premier mandat en 2008-2009. En outre, il s'en était ouvert au sein du barreau et au dehors. Il incarnait à lui seul tout ce que je combattais depuis le début de ma carrière. On aurait pu me donner de meilleurs interlocuteurs pour que je puisse exprimer, comme j'allais le faire, ce que je préparais et retenais depuis longtemps avant de partir. Il était le candidat idéal. Me voilà donc sur le point de satisfaire ceux qui, pour justifier leur domination ou leur soumission, m'ont fait une réputation de cosaque. Pour une fois, je vais vraiment manquer de délicatesse. Melun, le 27 octobre 2015.
Le candidat idéal. Voilà ce qu'Enrique Vagny représente dans l'esprit tourmenté de Joseph Cipolletti. Pour la journaliste Ondine Milot, la lecture du « testament » entre guillemets de Cipolletti, combinée à ce qu'elle a découvert de l'homme, de son histoire, apporte un autre éclairage, plus complexe, plus intime, sur les événements du 29 octobre 2015. Retournons à ce matin-là, à la dizaine de minutes qui s'est écoulée entre le moment où Cipolletti entre dans le bureau de Vanier et celui où il se tue et qui ne peut être résumé par une dépêche AFP de type « Un avocat paranoïaque et dépressif tente de tuer un collègue, puis se suicide ». Car dans le fond, il ne s'agit pas tant de savoir pourquoi Cipolletti a voulu tuer le bâtonnier que de comprendre pourquoi il a voulu mourir avec sa victime. Pour ne pas finir sa vie en prison, considérant que cela peut être pire que la mort, le déclassement absolu, la définition même du désespoir, à hurler de douleur, peut-être. Toujours est-il qu'en ce 29 octobre au matin, Cipolletti suit le bâtonnier dans son bureau. Vanier se retourne, s'installe, quand le premier tir l'atteint. Deux autres balles touchent en l'espace de quelques secondes. Alors il tente, tout en se redressant difficilement contre le mur, de parler avec son agresseur. Une scène qu'il raconte dans une interview donnée aux Parisiens.
J'échange et je lui dis, mais est-ce que tu sais que j'ai deux garçons, quoi, j'ai Jules et Théo, et je donne l'âge à ce moment-là, 7 et 10. Et je répète, Jules, Théo, je suis un père de famille. Et en disant, voilà, j'ai compris, t'allais au bout, si tu veux au bout, épargne-moi le visage, qu'il puisse me voir une dernière fois. Et il continue à venir me viser avec l'arme à plusieurs reprises. Donc c'est là que je sais qu'il finira par la mettre, cette dernière balle. Enfin, finalement, il se reprend et puis il me dit, non, je te laisse en vie. Il recule un siège pour que lui puisse être dans mon champ de vision. Et puis je vois qu'il met l'arme dans la bouche. Moi, je ferme les yeux parce que j'ai pas envie de voir ça. Et puis j'entends la détonation.
Qu'a-t-il vu, Cipolletti, en regardant Enrique Vagny ? Qu'a-t-il vu qui l'a convaincu de ne pas abattre le bâtonnier ? À la question initiale, pourquoi Cipolletti a-t-il voulu tuer Vagny après alors, à quelques instants du dénouement tragique, une autre question. Pourquoi Joseph n'a-t-il pas pu tuer Enrique ? Aurait-il changé d'avis en entrant dans le bureau, en saluant le bâtonnier ? Mais non. Il lui tire dessus, trois fois, manquant de le tuer à chaque coup. C'est après s'être déchargé de sa colère, quand il prend quelques secondes à peine pour respirer, qu'il annonce qu'il ne le fera pas. Alors, veut-il montrer son pouvoir ? Faire sentir à l'autre son double lumineux quand lui n'est qu'aigreur sombre et passion triste, ce que c'est que d'être à la merci de quelqu'un et dans la peau d'un loser torturé ? Lui faire sentir les tourments, la tragédie de l'impuissance ? Et pourquoi vouloir à ce point mourir aux côtés d'Enrique Vagné ? C'est là la question. Personne ne peut prétendre connaître avec certitude les réponses à ces questions, évidemment. D'abord parce que le suicide est un acte intime. Il est le reflet de la complexité de l'être humain. Ondine Milot le sait. Mais il est possible, en cherchant, en enquêtant, de s'approcher de la vérité. Et pour la journaliste, ainsi que nombre d'avocats de Melun, d'une manière ou d'une autre, Joseph Cipolletti a souhaité partir avec celui qu'il aurait voulu être, ou qu'il aurait pu et même dû devenir. Dans son livre, intitulé « Le candidat idéal », elle écrit « Partir en emmenant l'avocat à la carrière remarquable, l'incarnation de l'autorité à la fois adorée et honnie, joindre deux destins qu'il aurait rêvé similaires, les unir en un ultime sursaut de révolte, de désir ou de jalousie, je ne sais pas, mais je crois, comme ses confrères, qu'il y a quelque chose dans son acte qui n'est pas que de la haine. » Dans une certaine mesure, l'enquête, les mots d'Ondine Milot ont aidé Enrique Vagny à appréhender autrement ce qui lui est arrivé. Il s'en explique.
Moi, ça m'aide à fermer la parenthèse de ce monsieur. Voilà, il n'est plus là. Il a fait ses choix. Et puis maintenant, je l'oublie, ce monsieur. Voilà. Je peux en parler, je peux dire son prénom, son nom. Je pense qu'à un moment donné, dans ma vie, j'avais du mal à le nommer. C'est plus le cas maintenant. Donc, le livre, en fait, il me permet de laisser partir des choses, quoi. Maintenant, je prends ça comme un accident de la vie.
Si les chroniqueurs parviennent parfois à aider les personnages des drames qui se déroulent quotidiennement dans les salles d'audience des tribunaux, c'est parce que les faits divers permettent, pas toujours mais souvent, d'appréhender la société, nos humanités, jusque dans ce qu'elles ont de plus sombre. L'origine de la violence, intime ou politique, voilà ce que cherchent les journalistes, et voilà ce que révèlent les faits divers. Cette rubrique longtemps méprisée, des chiens écrasés, destinée au petit peuple qui se divertit du glauque et du sordide, fait débat. D'ailleurs, certains médias ont longtemps refusé de traiter les faits divers. Les grands procès, oui, mais tout le reste, la justice quotidienne, non. À l'inverse, à la fin des années 90, le célèbre sociologue Pierre Bourdieu estime que le fait divers fait diversion. En résumé, il détournerait le citoyen de préoccupations nécessaires et principales pour exercer ses droits démocratiques. Pourquoi pas? De son côté, Yvon Jablonka définit le fait divers comme un fait social total, comme une force de frappe cognitive qui permet, à partir d'une enquête, de comprendre ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe sous les radars, sous les regards, et qui vient percuter notre quotidien. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Ondine Millot ce 29 octobre 2015 dans la salle des pas perdus du tribunal de Melun, être percutée par une tragédie qui n'était pas la sienne. Depuis, le bâtonnier Vanier n'a plus jamais plaidé dans une salle d'audience.
La vérité.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Quand un avocat tente de tuer un autre avocat et se donne la mort, c'était donc l'histoire que nous avons racontée aujourd'hui et dont nous allons parler avec notre invité, Ondine Milo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc cette journaliste dont on a beaucoup parlé dans le récit. Votre livre est intitulé « Le candidat idéal ». Maintenant, on a compris pourquoi il est intitulé comme ça. Paru en septembre dernier aux éditions Stock. Il y a, me semble-t-il, trois, ou peut-être plus, mais au moins trois positions classiques du journaliste. Il y a la position un pied dedans, un pied dehors, que la position, alors pour le coup classique, hein, on est devant un événement, on est touché, mais on n'est pas complètement dedans non plus. Il y a deux pieds dehors, notamment pour la politique, parce qu'après tout, en démocratie, le crime n'est que symbolique, donc on peut être un peu ironique, avoir de la distance. Et puis la troisième position, qui est la vôtre, et qui est celle, par exemple, des faits diversiers qui ont traité l'affaire Grégory, par exemple, qui sont hantés par ça. Là, c'est deux pieds dedans. Est-ce que vous vous sentez dans cette configuration-là ?
Alors, je ne me sens pas exactement comme les faits diversiers qui ont traité l'affaire de Grégory. Enfin, j'espère pas, pour les raisons évidentes que vous connaissez.
Mais c'est deux pieds dedans quand même.
Oui, il y a toujours un petit travail de distance quand même, évidemment, qui consiste à essayer d'être toujours conscient de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Ce qui n'est pas toujours évident.
Donner du sens.
Oui, mais même moi, si vous voulez, je me demande pourquoi je m'intéresse à cette histoire, pourquoi je me rapproche, est-ce que je peux me rapprocher, est-ce qu'on peut passer du vous au tu avec tel personnage. En fait, je me pose toujours la question et je le raconte aussi quand j'écris mes livres. C'est-à-dire, je le raconte à mon lecteur. Ce qui fait que s'il n'est pas d'accord, éventuellement, eh bien, il peut, enfin, avec joie même, il peut ne pas être d'accord. Se dire, mais c'est cette journaliste-là, beaucoup trop impliquée, ou angélique, ou trop de gauche, ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Ça lui laisse une liberté. Le fait de dire où on se situe, ça laisse quand même plus de liberté, je trouve, que de faire comme si on était complètement objectif.
Bien sûr. À quel moment avez-vous senti que cette affaire-là, vous alliez la traiter en profondeur, qu'elle allait occuper vos journées et votre esprit assez longtemps ?
Ça s'est fait progressivement, comme vous le racontez très bien dans le récit, c'est-à-dire qu'il y a eu même une succession de coïncidences. Parfois, c'est fantastique, la vie et ce boulot-là de journaliste, c'est qu'il y a des hasards. On ne saura jamais si c'en est complètement et c'en est sans doute pas complètement. D'abord, je me retrouve donc là-bas le jour même. Ça me paraît extrêmement incompréhensible, vous l'avez très bien raconté aussi. Quand c'est incompréhensible, c'est vrai, ça me donne envie de justement de comprendre, parce que on peut dire oui, c'est un harcelé qui a voulu se venger de son harceleur, mais des histoires
trop
de harcèlement. Et puis moi, j'en ai couvert plein. Je crois que c'est la dernière chose dont un harcelé a envie, c'est de quitter le monde en compagnie, les yeux dans les yeux de son harceleur, comme là l'a fait Joseph Cipolletti en se mettant devant, en le regardant. Et en se donnant la mort, vraiment les yeux dans les yeux. Donc il y avait quelque chose quand même d'extrêmement étrange, sachant qu'il ne s'était vu que deux fois, cette intimité-là de son passage à l'acte. Et j'avais très envie de comprendre. Et donc, le temps passe, je rencontre Henrik Vanier pour faire un portrait de dernière page dans Libération, de lui. On se voit, c'est assez intense, je suis assez touchée par cet homme. Je suis très contente parce que je vais quitter Libération. Et donc, ça sera mon dernier article. Et je me dis, bon, voilà. Et en fait, je l'ai rencontré le 13 novembre 2015. Donc, j'ai jamais publié mon article.
Ah oui, bien sûr.
J'ai jamais publié mon article. C'était impossible.
Bien sûr. Des gens
Et donc, après, je pars, j'écris ce livre dont vous avez parlé sur Dominique Cottret, et je me dis, j'aimerais faire quelque chose sur cette histoire. Et là, intervient encore une coïncidence. À un moment donné, il m'écrit, il me dit, moi, j'aimerais...
Qui ? Vanier ?
Oui, pardon, excusez-moi. Henrik Vanier m'écrit. Et dit, moi j'aimerais qu'il y ait un livre, peut-être, sur mon histoire, je ne sais pas si ça vaut, enfin, d'un truc très, très pudique, mais dit, voilà, peut-être on pourrait écrire quelque chose et j'aimerais que ce soit vous. Donc, je l'appelle, j'éclate de rire, je dis, mais je suis la seule qui n'ait pas écrit, puisque tous les autres l'avaient fait, leurs articles, moi j'arrivais en dernier. Il me dit, oui, mais bon, voilà. Et tout ça, mais le vrai moment où j'ai compris que j'allais faire ce livre, c'est quand j'ai dit à Henrik Vanier, voilà, moi si je fais un livre, ce sera aussi sur votre agresseur. Parce qu'on ne peut pas expliquer la violence simplement en faisant parler les victimes. Et au moment où il m'a dit d'accord.
Et à partir de ce moment-là, il a évidemment coopéré.
Oui, c'est-à-dire que j'aurais pas pu faire le livre que lui, il avait envisagé. C'est absolument normal, un livre qui racontait sa vie, parce que vous l'avez dit un peu, mais sa vie est dingue. Son père était gangster, il a vécu en cavale, donc il a voulu redresser ce sort, il a voulu justement remettre de la justice là où il trouvait qu'il n'y en avait pas. Et comme Sipiliti, tous les deux voulaient redresser le sort. Et donc lui, il dit, bah voilà, j'ai une vie dingue, et puis en plus, on m'a tiré dessus, c'était quand même, j'ai vraiment failli mourir, elle a vraiment failli mourir.
Il y a vraiment des choses à raconter, c'est
clair. Voilà, j'ai des choses à raconter.
Vraiment, oui.
Et moi, je lui dis oui, mais c'est pas parce que votre père était bandit, que votre mère était musicienne, que vous êtes née à Raon-l'Étape, qu'on vous a tiré dessus. Si on vous a tiré dessus, c'est parce que Joseph Sipiliti, sa violence, sa détresse, ses rancœurs, sa vie, son parcours. Et pour moi, qui suis journaliste de faits divers depuis un moment à ce moment-là, en fait, ça devient plus possible de faire raconter la violence que par les victimes. Alors, évidemment, souvent, il y a quelles qui sont là. Les auteurs sont en prison ou veulent pas parler. Mais il y a un biais qui est dangereux là-dedans. Enfin, c'est pas parce qu'on s'appelle ainsi et qu'on était là et qu'on est sorti à ce moment-là qu'on a été victime. Donc, je veux absolument parler de l'auteur.
Donc, pour parler aussi de Sipiliti, puisque c'est suicidé, vous rencontrez ses proches.
C'est ça.
Alors, comment ça se passe avec eux?
Je suis très embêtée au départ de l'aider. Enfin, je pense que ça va être difficile pour eux et que c'est très difficile pour eux. Mais je l'écris une lettre, ils me répondent et ça se passe bien dans la mesure où c'est des gens extrêmement humains, chaleureux. Totalement bouleversé par ce qui s'est passé pour Henrik Vanier et qui sont dans cette espèce de position impossible où pour eux, en fait, ils ont un excellent souvenir de leur frère. Ils aiment leur frère et ils ont des bons souvenirs avec lui. Et ce souvenir est totalement incompatible avec l'image de l'homme qui rentre dans le bureau et qui tire. Et pour eux, ça, c'est très difficile. Ça l'est toujours aujourd'hui. Ils n'arrivent toujours pas à faire le lien entre les deux. Mais en tout cas, je leur dis voilà, moi, il est hors de question que je juge. Ni votre frère, ni voilà, c'est pas ma position. Je suis pas juge et puis on m'a rien fait à moi en plus. Enfin, donc c'est pas à moi de dire c'est grave, c'est pas grave. Il mérite pas. Enfin, donc il m'a rien fait du tout. Et à partir de ce moment-là où ils comprennent que je vais pas juger, ils se disent bah oui, pourquoi pas essayer de comprendre aussi un petit peu plus de choses sur ce qui a mené notre frère là.
Et quel a été le volume d'informations que vous avez pu recueillir auprès des psys? Parce que c'est pas un crime crapuleux, c'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire de jalousie, c'est vraiment une histoire psychologique jusqu'au bout des âmes.
Ouais.
Parce que c'est pas facile à comprendre quand on n'est pas psy non plus.
Non, c'est vrai. Et en plus de ça, dans le livre précédent sur Dominique Cottret, j'avais parlé à des psys qui avaient vraiment rencontré elle déjà et d'autres femmes auteurs de violences infanticides. Donc, mais là, si vous voulez, je pouvais pas me permettre de demander à un psy au fait, faites-moi une analyse de. Enfin, j'en ai parlé avec certains, mais ils m'ont dit mais c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais enfin, oui. En tout cas, on peut pas.
Ça faisait pas avancer la chose.
Non, mais Et puis ils peuvent pas, enfin, déontologiquement dire ah bah écoutez, moi je pense que cet homme était paranoïaque, bipolaire, machin. Enfin, ils peuvent pas, c'est pas possible. Maintenant, en discutant, comme j'aime bien discuter avec des psys, je le fais régulièrement, je discute beaucoup avec des psys, avec des avocats et avec des magistrats. Enfin, c'est normal pour mon métier. Et c'est vrai que je me souviens d'une discussion en particulier avec un psychiatre qui me disait mais la paranoïa, c'est une solution. C'est-à-dire que oui, c'était parce que je lui disais mais quand même c'est horrible comment ce Joseph Sipiliti s'enferme dans quelque chose où il déclare même pas ses impôts. Donc forcément, il va être complètement poursuivi avec des taxations d'office énormes. Il fait tout, il fait une sorte de suicide lent et surtout il voit le pire tout le temps. Il voit la vie par le pire prisme.
Noir.
Il est d'une noirceur infinie. Et tout le monde est son ennemi. Tout le monde est son ennemi. Il est persécuté en permanence. Et je dis à ce psychiatre, mais c'est atroce en fait d'être persécuté. Et le psychiatre me dit oui, mais le délire, qu'il soit paranoïaque ou autre, c'est quand même pour échapper à une réalité. Et finalement, donner une autre version du monde par rapport à une...
Un déni, quoi.
Ouais, par rapport à une version qu'on veut pas voir. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'au moins, il y a toujours une solution. Effectivement, chez les paranoïaques, il y a toujours une solution. C'est-à-dire que quoi que vous disiez, bah, c'est bien la preuve qu'ils ont raison. C'est bien la preuve que vous êtes contre eux. C'est bien la preuve que le monde est une agression. Et ça tourneront, quelque part. Et il y a plus de questions sans réponse.
Et donc, c'est bien la preuve que j'ai raison.
Et c'est bien la preuve qu'ils ont raison. Et que tout tourne comme il l'analyse et qu'il n'y a pas de béance, d'affre, de questionnement sur d'où on vient, qui on est.
Et le risque, c'est de prendre les chemins les plus dramatiques, hein, comme c'est
arrivé qu'il a pris. Ouais.
On va se retrouver dans 3 minutes, on dit Milou, après avoir écouté Florent Marchais, De Justesse.
Un noyau de cerise, 4 ans la chaise haute, et les doigts dans la prise, juste avant qu'on les ôte. De justesse. 12 ans, vif écorché, la rivière, les Cévennes, sauter du grand rocher et s'en sortir indemne. De justesse. Promets-moi mon amour, passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Les soirées du lycée, à faire plus que son âge, le pantalon baissé, fais-le ou tu dégages. En vitesse. Ne plus rien avaler et peser sans mal-être, on allait se jeter, mais on ferme la fenêtre. De justesse. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. J'y pense tout le temps. La bagnole qui va vite, ne rien faire à moitié et fêter ses 18. De justesse. C'est la nuit, c'est l'été, dans le ciel bleu pétrole, les platanes argentés, parfois on a du bol. Dans l'ivresse. Promets-moi mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant. Promets-moi, mon amour, de passer ton tour. Promets-moi, mon enfant, de rester vivant, de rester vivant. J'y pense tout le temps.
Milo, est-ce que Sipiliti, comme on l'a dit dans le récit, mais après tout, peut-être à côté de la plaque, hein, est-ce que Sipiliti voit en Vanier la réussite qu'il aurait aimé être la sienne, ce qui déclencherait une jalousie, peut-être même un regard de classe finalement. Lui, il a réussi parce que c'était plus facile, moi, c'était plus difficile, mon histoire. Quelle est la part de cette jalousie irrationnelle?
Alors, on ne saura jamais vraiment, on ne saura jamais non plus quelle était la part consciente. Moi, c'est vrai que cette hypothèse-là que vous formulez, elle est arrivée dans la bouche de beaucoup de... Je ne me serais absolument pas permis, moi, de faire l'analyse. Vous parliez tout à l'heure de faire la psy, justement, je ne peux pas.
Donc, on pose des questions.
Mais,
voilà.
mais surtout, beaucoup de gens qui ont observé ça, et ça se passe dans une arène, c'est le tribunal de Melun, ils ont des collègues qui les connaissent tous les deux. Il y a énormément de gens qui les connaissent tous les deux, qui se côtoient, qui connaissent bien ces deux hommes. Et donc, c'est vrai que ça, c'est l'homme qu'il aurait dû être. Ça, c'est ce que disent les amis de Joseph Sipiliti. Et c'est l'homme qu'il aurait bien voulu devenir. Ça, c'est ce que disent les gens un petit peu moins empathiques avec Joseph Sipiliti. Mais il y a une forme de projection. Il y a une, enfin, cette histoire, c'est une histoire de projection. C'est pour ça qu'elle m'a passionnée et fascinée, parce qu'on a tous vécu ça à un moment donné, que quelqu'un focalise sur nous, en bien ou en mal d'ailleurs. Et ça, c'est sûr qu'il y a une focalisation avec une part de fantasme, mais il y a des choses sûrement qu'il a senties. Comment se fait toutes ces coïncidences? Comment se fait-ce que tous les deux sont issus de familles de maçons hyper modestes et qu'ils sont le seul fils dans chacune de ces familles qui devient avocat, qui fait carrière?
Oui, donc il n'y avait pas une sorte de lutte des classes?
Non, parce que Vanier vient exactement du même milieu, extrêmement ouvrier, galérien. Vraiment, on peut dire que les deux familles, et s'il fallait même dire la moins insérée, c'était sans doute la famille Vanier. Mais ça, Joseph Cipolletti ne le savait pas. Mais il pouvait sentir des choses. Il pouvait sentir que quelque part, ils venaient vraiment tous les deux d'enfance compliquée, d'enfance difficile, pas sans amour. Certainement pas sans amour, ni l'un ni l'autre, mais compliquée, difficile, avec des obstacles, avec une injustice sociale, quoi, vraiment. Et tous les deux savent ce que c'est que la justice qui aide ceux qui ont et qui font pas grand-chose pour ceux qui n'ont pas. Enfin, voilà. Donc tous les deux veulent redresser ça. Il a dû sentir ça d'une façon ou d'une autre.
Ça montre que les gens qui portent des valises à cause d'enfance difficile, certes, pour certains, ça en fait une force, et pour d'autres, ça fait une valise à porter très lourde.
Ouais, bah ça.
Ça montre ça aussi, hein.
Oui, ça montre ça exactement. C'est-à-dire que, et sans jugement, encore une fois, mais il y en a un qui a réussi finalement à retourner les violences reçues, les difficultés, etc., et en faire quelque chose, un moteur. Et puis l'autre a voulu faire pareil, en fait, et il s'est laissé happer par cette injustice jusqu'à la voir partout, jusqu'à en faire une grille de lecture du monde, quoi.
Quelles ont été les réactions des familles Cipolletti-Vanier au moment de la sortie du livre?
C'était super touchant des deux côtés. Moi, j'étais très émue parce que ça s'est très bien passé et que les deux m'ont fait confiance. Et ça, je pense que dans une vie de journaliste ou d'écrivain, il n'y a pas meilleur cadeau que ça. Voilà, les Vanier m'ont dit oui, c'est ça. Pour eux, c'est très dur de lire les chapitres qui concernent Joseph Cipolletti.
Ah oui,
voilà. Enfin, Henrik Vanier, sa femme, sa famille les ont lus, mais pas les enfants, par exemple, ils lisent que les chapitres sur leur papa. Et puis, côté Cipolletti, bah, je crois que c'est très dur aussi, voilà ce que je disais tout à l'heure, de réconcilier les deux images. Mais à un moment donné, je racontais, on a eu des échanges extrêmement touchants et forts et sensibles. Et à un moment donné, le grand frère me disait, j'espère que je ne lirai pas ce livre, en me disant, oh la salope. Bon, excusez-moi pour le vocabulaire, mais voilà, en me disant, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle nous a fait, elle nous a trahis, quoi. Et il m'a appelé, il m'a dit, je ne me suis pas dit ça.
Vous écrivez des livres maintenant, je vais poser une question qui appelle une réponse courte, parce qu'on arrive à la fin du temps qui nous est, comme on dit, imparti. Comment le tempo médiatique, qui est un tempo court, et aussi celui de l'urgence, et c'est parfois d'ailleurs un problème à l'origine de certains dérapages, peut-il s'adapter au tempo judiciaire, qui lui est un temps long? Est-ce que le livre, c'est la réponse?
Bah écoutez, moi c'est une réponse en tout cas dans laquelle je m'épanouis, mais je pense que bien évidemment il faut continuer à... On peut pas ne faire que ça, j'aime bien faire des articles aussi, j'en fais toujours, et bien sûr il faut on peut pas juste dire c'est impossible de traiter l'instantané, mais effectivement par contre, au contraire justement, il faut parce que si on dit c'est impossible, bah, c'est raison de plus pour le faire très mal, avec des dérapages, donc non, c'est pas impossible, il faut le faire avec des précautions, pour des barrières, un peu de temps, un peu de distance, un peu de voilà.
Le candidat idéal, c'est donc le titre de ce livre qui raconte cette histoire fascinante. Tony Milo, merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Cipolletti-Vanier, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.